Vous êtes sur RTL. 11h-12h30.
RTL vous régale. Jean-Michel Zeka.
Parce qu'on a tout mis dans la glacière, on est prêt, tout le monde est en ordre de marche, on peut y aller.
On est un week-end, donc tout est plein.
Je peux démarrer le moteur?
On y va.
Merci, bonjour à tous. Merci d'avoir choisi RTL pour passer votre fin de matinée. Voici RTL vous régale, je vous le disais aujourd'hui, direction l'Auvergne. Alors l'Auvergne, c'est fromage, le Cantal, la forme d'Ambert, le Saint-Nectaire, mais aussi les pastilles de Vichy. Et ces fameux volcans. On va vous parler de l'Auvergne. En parlant de volcans d'ailleurs, voici celui qui de temps en temps entre en éruption, généralement aux alentours de midi hein, dans le défi frigo. Non, je n'ai pas parlé d'éruption cutanée. Je suis désolé Sébastien qui réalise cette émission, qui me suggérait une petite passe. Non, je... Comment ça va mon Jean-Sébastien?
Mais ça va formidablement bien.
Il est en forme.
Ah ben surtout vous. Hein.
Connaissez bien l'Auvergne. Hein.
Oh ben...
et vous allez nous le prouver dans quelques instants. Si elle était un volcan, elle serait à coup sûr l'Etna.
Absolument.
Je pense.
Et en explosion. Enfin, c'est le moment où
pourquoi,
en fait il explose.
Moi, j'ai plus
le Stromboli.
Le Stromboli.
Ah, le Stromboli.
C'est un choix. Luana Belmondo est avec nous également.
Bonjour à tout le monde.
Je rappelle que tous les deux vous vous affronterez dans le défi frigo de cette fin de semaine.
Non,
bon, l'affaire, la messe est dite. Hein, le score est enterré depuis mercredi, je pense.
Sauf que c'est là pour le coup. Les points comptent double aujourd'hui.
Ah, c'est vrai?
Ah, écoutez, moi j'ai une note de service.
Ah bah tu sais quoi? On va y aller comme ça, voilà.
Mais vous savez quoi? On remet tout en jeu aujourd'hui.
Celui qui gagne aujourd'hui gagne la semaine?
Non, allez,
il gagne l'été. Mais
comme me chauffez pas avec
Jean-Sébastien,
ça.
Celui qui gagne aujourd'hui gagne l'été.
On est vraiment en direct là.
3210 pour jouer avec nous. Vous avez un frigo, vous avez quelque chose dans votre frigo, un ingrédient un peu particulier dont vous ne savez trop que faire. Vous ne savez pas comment le cuisiner. Venez nous en parler 3210 ou par SMS en envoyant le mot régal suivi de votre ingrédient au 64 900. Louana, Jean-Seb, ils auront 3-4 minutes le temps des infos de midi tout à l'heure pour vous proposer une recette. Si vous gagnerez une montre RTL, un guide du routard offert par les éditions Hachette et un coffret cadeau Brittany Ferries Irrésistible Voyage d'une valeur de 1000 euros, ça vaut le coup de jouer avec nous. On vous attend au standard d'RTL. Nous partons pour l'Auvergne avec mes amis. Devrais-je dire plutôt l'Auvergne-Rhône-Alpes, pour être précis?
Non, Auvergne.
Auvergne?
Oui.
Auvergne-Rhône-Alpes, c'est pas le nouvel...
Ça, c'est la région. Voilà, c'est la nouvelle région.
La nouvelle nomenclature.
Vous savez, maintenant, on fait Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Ardennes-Flandre, Alsace...
Et comme il n'y a que vous qui vous y retrouvez.
Voilà.
Il est 11h07, bienvenue dans RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka jusqu'à 12h30, RTL vous régale.
Bonne matinée et bel été sur RTL.
11h-12h30,
RTL vous régale.
Allez, bienvenue en Auvergne, on va vous emmener là-bas jusqu'à midi et demi. Il y aura des surprises, il y aura des invités et il y aura des cadeaux à gagner, donc ne bougez pas, vous êtes bien sur RTL. Auvergne ou Auvergne-Rhône-Alpes
Non, Auvergne.
Non, mais moi je dis que l'essentiel c'est de savoir qu'il y a 4 départements.
Oui, mais Rhône-Alpes n'en fait pas du tout partie.
Non, mais voilà, mais résumez l'affaire.
Parce que sinon, on part en Savoie, du coup. Vous voyez, c'est l'Auvergne. Bon, avant la réforme des régions, c'était l'Auvergne. Maintenant, c'est Auvergne-Rhône-Alpes, la région. Puis la prochaine fois, ce sera le Nord.
Bon, si je dis...
Nord et Sud, comme si, ça sera beaucoup plus
simple. Si
L'Auvergne, c'est 4 départements. Le Puy-de-Dôme, ouais. Le Cantal, la Haute-Loire, l'Allier. On voilà. Est... encore une fois au cœur de la France comme nous l'étions au début de la semaine dans le Berry. L'Auvergne offre des villes au caractère bien trempé. Il y a de hauts pâturages vastes comme ceux de la Mongolie. Il y a des vallées complètement paradisiaque. Évidemment, l'épicentre de tout ça, c'est Clermont-Ferrand. D'abord parce que la ville, il faut le savoir, est bâtie sur un ancien volcan. La place Jaude, c'est un cratère de volcan. Et c'est ce qui lui a valu, durant des lustres, la réputation d'être une ville sale. Parce
à cause de cette couleur particulière.
Exactement, à cause de la couleur un peu anthracite, qui était en fait, la cathédrale, elle est noire, mais c'est simplement parce qu'elle est en pierre de lave de Volvic. Et Clermont-Ferrand et le pays du Grand Clermont n'ont absolument rien d'austère. Déjà parce que, juste à côté, ce sont des paysages complètement uniques en France, uniques en Europe. L'UNESCO ne s'est pas trompé, hein, puisqu'ils ont, ils ont classé en 2018 la chaîne des puits au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Alors évidemment, si vous grimpez sur le Puy de Dôme, c'est absolument sublime. Vous avez une vue sur la chaîne des volcans d'Auvergne qui est tout à fait fantastique. Si vous descendez vers le sud, il y a le Cantal qui vous attend. Vous avez l'alignement des volcans qui prend toute sa dimension. Surtout quand on arrive aux abords du plomb du Cantal, vous avez des villes comme Aurillac, comme Salers, comme Saint-Flour. Saint-Flour qui est la porte d'entrée de la Haute-Loire, avec sa capitale, le Puy-en-Velay. On a parlé des lentilles. Cette semaine, c'est une cité totalement étonnante, séduisante, le Puy-en-Velay, dans laquelle certains jours d'été, on pourrait se croire dans une petite Rome perdu sur un relief basaltique, car ça prend des teintes un peu grâce au toit de tuiles rouges. On pourrait se croire pratiquement dans la capitale italienne, avec ses maisons aux façades, avec des volets qui se déclinent sur une palette de couleurs étonnantes.
Je suis d'accord avec Jean-Sébastien. En fait,
mais il faudrait surtout que je l'emmène au Puy-en-Velay.
Je suis à Vichy et je suis la marquise romaine.
Ce qui n'a rien à voir avec le Puy-en-Velay.
À défaut de la marquise de Sévigné qui allait faire ses cures à Vichy. Non. Alors, on va être sérieux deux minutes. Regardez ce que j'ai.
C'est pas ce qu'on fait de mieux, mais...
Non, mais qu'est-ce que j'ai là ?
Mais je vais quand même pas faire de la publicité en direct sur cette antenne.
Mais on parle des Vichy, on peut parler d'eau, enfin. Donc, je l'ai amené. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette ville qui est située dans le sud-est du département de l'Allier, qui est bâtie sur la rivière de l'Allier encore...
L'Allier.
C'est l'Allier, pardon. Mais bon, mais...
Mais on vous pardonne
tout.
Vous
savez, nos auditeurs, ils ont le vocabulaire des Loinins.
Voilà.
Okay. Et puis, de toute manière,
ça s'inscrit en bas de l'écran. Hein.
Il y a une traduction. En fait, j'ai découvert Vichy tout simplement parce que c'est depuis l'Antiquité une ville thermale. Alors, moi, telle que marquise de Rome, je me suis rendue juste pour un moment de bien-être, pour faire des spas et tout ça. Alors, je vous retiens, je vais rien dire. Nous, ici, on est à Paris, donc j'ai pas envie de faire des jaloux. Je vous impose pas tout ce que j'ai pu passer comme soin, massage,
bain. Bon, c'est bon, on imagine très bien.
Non, mais la meilleure chose que j'ai découvert. Bonjour, ça va? On a Stéphane qui vient d'arriver.
Stéphane Rottenberg qui vient nous saluer.
C'est gentil d'être là. En fait, c'est une ville géniale. C'est une ville qui a plusieurs, pas sources d'eau seulement, mais des ressources. En dehors... Alors, le cœur de Vichy, c'est vraiment le parc. Alors là, c'est où ils convergent tous les allées et tout. On y va parce que c'est un espace vert où il y a... Parce qu'on ne peut pas parler d'une seule eau. Il y a plusieurs eaux de Vichy. Il y a les eaux chaudes...
Évidemment, les eaux tièdes, les eaux froides, tout ça.
Non, mais il y a plusieurs propriétés dans ces eaux. Et après, bon, on n'est pas là pour parler de ça. Mais on va se balader. Et à ce moment-là, je me balade et je me trouve. Je me perds dans les allées. J'y trouve des hôtels néoclassiques, des villas toutes pareilles qui ont un côté un peu normand. Et puis, je suis au boulevard des États-Unis et là, je vois des chalets de style suisse. Et je me dis, mais où je suis? En fait, c'est les chalets impériaux, tous plus jolis les uns que les autres, qui tournent le dos au parc de Napoléon, parce que Napoléon était très important dans cette ville. Et puis, je vais au joyau de la couronne et là, c'est Jean-Sébastien qui ne va pas me dire le contraire. C'est à l'Opéra de Vichy, l'unique opéra en France, car c'est la seule en style art nouveau. On rentre et on en prend plein la tête, plein les yeux, plein le cœur. Et vraiment, tout est en or, ivoire, des fleurs, une salle à l'italienne. À l'italienne, vous savez, c'est les salles qu'elles sont...
C'est important de dire que Vichy est une ville d'art, que c'est une ville de gastronomie aussi, et ça,
absolument,
on va vous le prouver dans le courant de cette émission. Il y a un opéra.
Cet opéra, pour vous résumer, c'est juste majestueux, c'est magnifique. Il faut aller voir l'été, il y a plusieurs concerts, l'hiver, il y a plutôt des pièces qui se jouent. Mais c'est surtout que Vichy, on se régale. On peut pas dire Vichy, c'est les pastilles de Vichy. Vichy, c'est la soupe froide à la vichoise. Non. J'ai jamais vu autant de restaurants dans une ville avec 30 000 habitants. Et autant de choix.
Et on va vous donner des adresses, on va vous expliquer qui sont les gens qui font les choses magnifiques dont on vous parlera dans le courant de cette émission.
Ouais, juste un homme à qui je voudrais rendre hommage à Vichy, parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection, c'est Jacques Décoré, qui est un chef absolument sublime, qui est MOF depuis 98, qui a choisi de travailler les produits d'Auvergne avec un talent incroyable, une sensibilité totalement unique. Il fait partie de ces immenses virtuoses de la gastronomie française qui portent la gastronomie au firmament.
Et on n'en parle pas assez.
Et c'est il fait une truite. Moi, j'ai des souvenirs d'une truite de montagne juste étuvée. Qui était une merveille absolue. Enfin, il est dans la simplicité, il est dans le produit, il est dans l'épure, et c'est un talent exceptionnel, Jacques Décoré.
C'est un peu comme nous, la simplicité, l'épure, pour vous offrir les plus beaux cadeaux de l'été sur RTL. Ce matin, pour le grand jeu RTL de l'été qui sera de retour dans moins de 30 minutes, vous allez pouvoir tenter de gagner un smartphone Galaxy Note 10 ou un chèque de 1000 euros. Vous avez le choix de jouer avec Laurent Ruquier ou Stéphanie Loire pour jouer avec nous. 3210 par téléphone, nous vous envoyez RTL par SMS 74 900. Je vous souhaite bonne chance. On se retrouve dans un instant sur RTL, juste après le pitch.
Understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke on.
LP sur RTL.
Ne bougez pas, dans un instant, RTL vous régale, revient.
RTL vous régale, avec Jean-Michel Zeka.
Aux côtés de Luana Belmondo et de Jean-Sébastien Petit-Demange, on est en Auvergne aujourd'hui. L'Auvergne, véritable plateau de fromage. C'est vrai qu'on dénombre combien des AOP là? 5?
Oui, c'est marrant, c'est très. Ils ont trouvé ça comme slogan publicitaire il y a des années, l'Auvergne, un véritable plateau de fromage. Alors bon, il y a 5 fromages AOP. quelques autres comme ça, mais enfin, il y a quand même des régions où il y a beaucoup plus de fromages qu'en Auvergne. Mais c'est vrai que les fromages auvergnats sont imposants en masse.
Avant de faire un bon fromage, il faut
du lait.
Du bon lait.
Et pour faire du lait, il faut
des vaches.
Et pour que les vaches fassent du lait,
il faut de l'herbe.
Voilà.
Du terroir.
Et derrière tout ça, il faut des hommes.
Exactement.
Et un climat.
Et grosso modo, quand vous allez en Auvergne, c'est un véritable bonheur pour les vaches, parce que ces monts d'Auvergne, dès que le printemps arrive, se couvrent de fleurs, de narcisses, de crocus, de girofles, et ça donne... Il y a pratiquement la moitié de la flore française qu'on retrouve sur les pâturages auvergnats. Du coup, ça donne... un côté très particulier au lait, extrêmement marqué, et du coup, on part sur ce effectivement plateau de fromage où on a d'abord le Saint Nectaire, alors qu'il n'a rien à voir avec un saint. Hein. Je ne sais pas si vous avez un ami qui s'appelle Nectaire.
Mais... Non, mais il est tellement bon qu'on peut dire qu'il est saint, ce Nectaire. Connu.
En fait, c'était Henri de Sénectaire, qui était le seigneur du coin, Sénectaire. Il a passé sa vie à promouvoir le fromage de sa châtellenie, et il en a fait, et c'est on lui a donné son nom. Alors, c'est une production de 14 000 tonnes par an. On est vraiment dans le Puy-de-Dôme et un petit morceau du Cantal. C'est la quatrième AOP fromagère française. C'est du lait de vache. C'est un fromage qui a une croûte qui tire sur le gris clair. Il peut être fermier, il peut être laitier. En attendant, ça fait partie de ces fromages que tous ceux qui aiment le fromage adorent le Saint-Nectaire. Et puis, après, bon, moi, vous avez les deux seigneurs pour moi des fromages d'Auvergne, c'est le Cantal et le Salers. C'est un bonheur total. C'est des pâtes pressées non cuites. On peut les confondre tous les deux. Le Salers est exclusivement fermier. On ne le trouve, il est fait que du 15 avril au 15 novembre. Trois mois d'affinage, une croûte dorée. C'est généralement imposant, hein, une tome de Salers. Mais Dieu que c'est bon.
Il y en avait de très belles sur le marché de Brive-la-Gaillarde, oui, d'ailleurs.
Absolument. Et ça fait partie des merveilles absolues, quoi.
Louana, dans la série des fromages régionaux, votre préféré serait celui que vous appelez la forme d'Amber.
C'est pas moi qui l'appelle. Hein. J'aimerais bien donner un nom à un fromage. Elle s'appelle la forme d'Amber. Alors déjà, pourquoi elle m'a intriguée quand je suis arrivée en France, c'est par rapport à sa forme. Vous voyez, par rapport aux autres fromages, elle a une forme cylindrique. Cylindre, comment on
cylindrique,
peut dire
cylindrique.
En fait, et en plus, elle est haute, elle fait presque 19 cm d'hauteur. Donc, ça m'a intriguée et je l'ai achetée pour ça. Alors, c'est un fromage fait à base de lait de vache, à pâte non pressée, non cuite. Sa pâte est persillée, sa croûte est fine, sèche et fleurie.
Qu'est-ce qu'on veut dire par pâte fleurie?
Alors,
parce qu'on n'arrête pas de parler de ça dans cette émission.
Oui, on parle de croûte.
De croûte fleurie.
Croûte,
de
pâte toujours.
De pâte persillée.
Pâte persillée.
Alors qu'est-ce que c'est qu'une croûte fleurie?
Alors souvent, on fait un mélange entre le fait fleurie, en fait, c'est ce petit duvet qui s'efforme au-dessus des fromages.
Une espèce de petite moisissure.
Ce qu'on pense aux moisissures, mais c'est pas du tout. C'est par rapport à l'affinage, et justement, ce sont comme des cristaux qui ressortent, ils font un petit duvet, et ce qui c'est justement le côté fleuri qu'on dit d'une croûte.
Et attention, pas d'une pâte. Pas de persillé, on entend là.
Là, c'est des moisissures.
Voilà, ça.
Là, on vient, oui, absolument. Alors, en bouche, des arômes complètement subtils, des sous-bois parfumés. Son goût est doux, en fait, on le croit pas, parce qu'on est, voilà, sur une pâte persillée, doux, et il y a des rondeurs forcément qui se dégagent dans la bouche.
Vous l'utilisez en cuisine?
Oui, beaucoup, parce que pour moi, c'est un des fromages les plus doux des fromages bleus.
Vous en faites quoi, par exemple?
Pas mal, j'arrête pas. Alors, j'ai fait des salades, des bruschetta, par exemple. Là, en ce moment, il y a des petits pois qui sont super. Des bruschetta, on met par-dessus donc notre forme d'Amber, après des petits pois, même pas cuits. Cru avec de la viande des grisons, c'est super. J'ai fait des bonbons, des pommes fruits. Hein. En fait, je les mets dans des briques, je mets à l'intérieur donc un petit morceau de forme d'Amber, et puis je les fais vraiment au four, cuire au four, c'est croustillant pour un apéro, c'est délicieux, dans un risotto. Mais c'est super. Mmh. C'est un peu, ça remplace notre mascarpone, hein. On rajoute juste un petite pointe de crème parce qu'il est moins moelleux. Les ballotines des volailles, on peut donc les farcir, s'amuser à la cuisiner. Et puis, vous savez quoi? J'avais fait des desserts avec les poires. Alors, c'est pas la saison, mais avec des poires et du chocolat, ça marche super bien.
Ça marche
bien.
Pas mal. Un bleu très doux, en tout cas. On aurait pu vous parler aussi de la salaire, la vache.
De la viande, en général.
De la viande. Il n'y en a qu'un pour comparer une vache aux yeux de Liz Taylor, c'est vous, hein, de toute façon.
Elle a des cornes en lyre, elle a des yeux faits. Voilà. Elle a l'envergure de Colombo. vous avez la salaire... qui se transforme en limousine, hein, quand on, que c'est, enfin, qui se transforme, c'est, on élève plus des limousines quand on remonte dans le nord, de l'Auvergne. Vous avez aussi la vache Aubrac quand on est dans le sud. Donc, Aubrac, Salers, limousine, c'est un peu le triumvirat magnifique des viandes de bœuf qu'on fait en Auvergne.
On a compris qu'on allait ramener du fromage, dans le coffre de la Fuego aujourd'hui. Il y aura pas que ça. Bah oui, il y a des tas de choses à ramener d'Auvergne. On va vous expliquer ce qu'il faut impérativement rapporter, tiens, en fait. Notamment. Et ça, ce sera dans un instant dans la suite d'RTL Vous Régale. Il est bientôt 11h30.
11h-12h30. RTL Vous Régale. Avec Jean-Michel Zeka. RTL. 11h-12h30. RTL Vous Régale.
Et RTL vous raconte l'Auvergne aujourd'hui avec mes camarades jusqu'à midi et demi. On est au cœur de cette Auvergne dont on va rapporter quelques souvenirs. J'ai mon petit panier en osier comme chaque jour.
Dans la Fuego.
Exactement. Jean-Seb, il y a du vin dans la région quand même. Faut pas oublier de le dire.
Alors c'est pas les vins les plus connus, hein.
Non, mais n'empêche.
Faut bien reconnaître. Mais les Auvergnats se sont bien gardés de porter leur rouge au pinacle depuis longtemps. On fait ça. Les rouges Auvergnats sont essentiellement faits avec du Gamay et du Pinot noir. Et puis, au fur et à mesure, depuis des années, la qualité s'est largement améliorée dans les côtes d'Auvergne, qui est une AOC qui a été décrochée en 2010. Ils s'en sortent plutôt pas mal avec des rouges charnus, par exemple dans le Chanturgue qui a un vin assez solide, qui est structuré, qui a beaucoup beaucoup progressé. C'est vrai que la première fois où je suis allé en Auvergne pour le guide du Routard, c'était un peu râpeux, mais c'était il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, les Chanturgues sont devenus beaucoup plus souples et beaucoup plus ronds. Le Châteauguay, c'est la version light. Du Chanturgue, le Boud par exemple, qui est un vin plus fruité, plus léger.
Ils sont pas les plus connus.
Ah non, je vous confirme. Et puis bon, je pense que le plus connu c'est le vin de l'Allier, c'est le Saint-Pourçain, qui est un. Alors, le Saint-Pourçain, c'est un vin de soif, c'est un vin un peu rustique.
C'est un blanc.
Le blanc à l'origine, et puis ils en ont fait un rouge dans le Bourbonnais. On servait autrefois ça sur les tables rondes. Le Saint-Pourçain, vous savez, c'est le blanc qu'on sert à la ficelle.
Le vin de soif.
Voilà, vin de soif par excellence, mais ça fait partie des breuvages intéressants, puis surtout ça fait partie de notre patrimoine, et ça c'est bien.
Mais moi j'aime bien cet esprit du vin à la ficelle entre copains. Voilà. Luana, quand vous allez en Auvergne, vous ramenez quoi dans votre petit panier?
Alors écoutez, cette région nous réserve vraiment des trésors un peu insolites. On a parlé forcément de la viande, on a parlé des vins, bien sûr c'est une évidence, on a parlé aussi des fromages. Mais il y a quelque chose de très gourmand et très sucré.
Qu'est-ce que c'est-il ?
Les cornets de Murat.
Les cornets de Murat ?
Oui, ce sont des biscuits secs, un peu comme des tuiles, mais ils sont roulés en forme de cornets. Alors, ils sont originaires de Murat, qui est dans le Cantal. C'est un biscuit 100% naturel. Il ne contient ni colorant, ni conservateur, bien qu'on peut le conserver assez longtemps à la maison. Il est fait juste à base de farine, sucre, œufs entiers. Œufs entiers, je tiens à le dire, parce que quand on fait des tuiles, on ne veut pas des œufs entiers, on met que les blancs. Et là, on met tout l'œuf, du beurre, et parfois, on rajoute un petit arôme, comme du rhum. Alors, sa particularité est forcément sa forme, non? C'est les cornes. Alors, on m'a dit, parce qu'en fait, quand je les ai achetés, j'étais à la pâtisserie au Cornet de Murat, à Murat, et là, le pâtissier m'a dit... Parce que j'ai dit pourquoi cette forme, il m'a dit ça vient des formes des cornes des vaches qui servaient justement à transporter à l'époque et à distribuer ces biscuits. Est-ce que c'est une légende? Est-ce que c'est le pâtissier qui a inventé ça? Peu importe, elle m'a plu.
On s'en moque un peu, c'est joli. Voilà.
Moi, quand je les achète, après, je m'en sers. Alors, bien sûr, ils sont délicieux comme ça, mais comme comme des cônes des glaces, vous savez.
Ah, vous mettez des boules de glace par-dessus
ou alors des fruits avec de la chantilly. On peut s'amuser. Et on peut s'amuser aussi avec du sucré salé. Mettre à l'intérieur un fromage, travailler un peu de faisselle, des magrets à canard. Et c'est quelque chose de très visuellement joli sur une assiette.
Très bien. En Auvergne, évidemment, on ne peut pas se passer de rapporter de la lentille verte du puits.
Voilà, ça a été un des premiers légumes à être distingué par une appellation d'origine contrôlée. Je crois, je ne sais plus, en 1935.
Est-ce qu'il y a un goût différent de la lentille
Oui, elle est différente parce que le goût, il est un peu sucré, vous savez, elle est petite, elle est verte, la peau elle est très fine et en plus le fait qu'elle soit fine, elle est moins farineuse et donc la cuisson elle est assez rapide. Alors inutile de vous dire qu'une lentille est bonne pour un équilibre alimentaire de tout le monde, enfin en tout cas dans la vie parce qu'elle est riche en fer. D'ailleurs on appelle souvent la lentille un peu, vous savez, le steak vegan des personnes qui ne consomment pas beefsteak vegan, qui ne consomment pas de viande. Ce qui est bien pour cette lentille, faut savoir, elle est en fait produite dans une zone bien délimitée, qui est située au cœur de la Haute-Loire, dans des plateaux du Velay. Alors là, la terre, elle est très volcanique. Et après, vous savez, les hivers là-bas, ils sont un peu rigides. Et ben après, il y a un climat sec, ensoleillé. Et à ce moment-là, ce microclimat rend cette lentille unique. Parce qu'elle manque d'eau. Parce que cette lentille, on ne met ni des engrais, ni d'irrigation. Elle est complètement naturelle. Donc, elle manque d'eau. Et le fait qu'elle manque d'eau, elle l'empêche d'arriver à maturité complète. Ce qui lui donne son petit grain et son goût sucré.
Et d'ailleurs, c'est bientôt la fête de la lentille, à la fin de ce mois d'août.
Normalement, fin mois d'août, voilà. Il y a en fait de la lentille.
En espérant qu'elle puisse avoir lieu dans les conditions qu'on connaît. Jean-Seb, on ne va pas en Auvergne sans ramener des pastilles de Vichy.
Quand on passe à Vichy, d'ailleurs... pas besoin de passer à Vichy pour acheter des pastilles de Vichy qui ont été inventées par Jean-Pierre Joseph Darcet, qui était chimiste, qui a découvert les vertus digestives en fait du bicarbonate de sodium, qui est le principal élément des eaux minérales de Vichy. C'est pour ça que Luana nous dit depuis tout à l'heure qu'elle boit sa bouteille de Vichy Célestin. C'est sucré. Forcément, quand c'est à température, c'est salé. Quand c'est à température et pas très frais, on sent bien le bicarbonate de sodium qu'il y a dans cette eau de Vichy Célestin. La recette... elle date de 1824. On a commencé à en faire des pastilles, à concentrer tout ça. Alors évidemment, on a mis du sucre. L'impératrice Eugénie, qui aimait à fréquenter Vichy avec Napoléon III, s'est pris d'amour pour ses bonbons aux propriétés digestives. Bon, ça fait partie des incontournables. C'est quand même très très sucré, mais ça fait partie des goûts. C'est un peu une madeleine. C'est très sympa. Puis après, bah vous avez les eaux à rapporter. Hein. Vous avez non seulement Célestin, vous avez Vichy Saint-Yor, et ça fait partie aussi de cette espèce de panthéon des eaux minérales qu'on trouve en France, qui sont extrêmement nombreuses, qui sont très régionales, qu'on redécouvre depuis des années. C'était dominé par les deux grandes multinationales et puis de plus en plus, on voit réapparaître des eaux régionales.
Signe des temps.
La Planquette, ouais, voilà. En Bretagne, en début de semaine.
Ça va continuer à aller très fort dans quelques instants, puisque on va vous parler de cuisine et c'est ce qu'on adore faire dans cette émission. Luana, on fera du poulet dans quelques minutes.
Bah oui, on est un peu à la veille du week-end. Le dimanche, on mange toujours le poulet, le fameux poulet du dimanche. Alors, pourquoi pas faire un poulet bourbonnais?
Ah, le fameux poulet bourbonnais. Le choix de Luana dans un instant dans RTL vous régale.
Tout de suite, retour de RTL vous régale. RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
Allez, j'ajuste la nappe et on passe à table dans un instant parce que voici le choix de Luana, la recette d'aujourd'hui, le poulet bourbonnais. On rappelle que c'est une race de poulet fermier.
Oui, c'est ça. En fait, quand on parle de poulet bourbonnais, on ne parle pas, comme souvent, de nom d'un plat, mais on parle du nom d'un poulet. Donc, un poulet fermier élevé en plein air, en liberté, avec une peau très fine, peu grasse, une chair hyper tendre et juteuse.
D'ailleurs, c'est pas compliqué. La recette que vous allez proposer n'a pas de nom. C'est le poulet à la Luana aujourd'hui.
Non, c'est la bourbonnaise.
Non, c'est un poulet à la bourbonnais d'origine.
D'origine, mais pour une fois, j'ai pas changé la recette.
C'est-à-dire qu'on va faire un fond de volaille nous-mêmes.
Ouais.
C'est chaud, ça.
Mais non, c'est hyper simple. Allez, on y va?
Oh, moi, je mets un cube. C'est, je
mais
sais,
non,
c'est,
allez,
c'est terrifiant,
allez,
c'est
allez.
Terrifiant.
C'est hyper simple. En plus, quand vous en faites, faites... Alors, tous mes recettes, vous les trouvez sur le site Cuisine AZ. Mais faites plus de la quantité que vous trouvez. Comme ça, vous pouvez les congeler et garder.
Mais il faut être comment vite faire le
fond de
volaille.
Alors, dans une sauteuse, je vais faire juste suer un peu des carottes émincées, des céleri, des oignons hachés. J'ajoute les abattis du poulet. Très souvent, on ne les garde pas. Hein.
Voilà,
gardez-les pour faire justement le fond de volaille. Vous allez saler, poivrer, on déglace avec un vin blanc, on fait évaporer le vin et puis on mouille avec de l'eau, à peu près un litre pour notre recette, mais vous pouvez faire le double
un
et doubler
garni.
Les quantités. Un bouquet garni, les herbes que vous voulez et vous laissez réduire aux trois quarts. C'est tout. Ça, vous avez votre fond de volaille et vous le réservez. Après, vous enlevez votre poulet. Alors, si c'est possible, demandez de le couper en morceaux. Vous les faites revenir dans un poêle avec de la matière grasse. Là, vous mettez ce que vous voulez manger, mais de l'huile d'olive. Mais après, c'est à vous de voir. Vous le faites vraiment bien doré. Il faut vraiment qu'il dore un peu. Et vous laissez vraiment tout doucement revenir dans cette poêle avec cette matière grasse. Vous enlevez le poulet et vous le placez dans le fond de volaille que vous venez de faire, où il y a encore, bien sûr, tout. C'est-à-dire, on ne l'a pas encore filtré. On a encore, en fait, les abattis, on a tout, on a les morceaux des légumes qui sont là. Et on place par-dessus, justement, les morceaux de poulet. On laisse cuire à feu doux pendant 45-1 heure. Il faut penser à remuer de temps en temps, vraiment pour que les aromates, c'est pour que le poulet s'imbibe de tout ça. À ce moment-là, on enlève le poulet, les morceaux de poulet. Moi, je passe en fait tout ce qui est donc fond de volaille et jus et tout ce qui reste dans un chinois. Donc j'enlève les morceaux, j'effiltre tout ça, je le mets dans une casserole. À côté, je fais revenir des échalotes, beaucoup. Alors, normalement, on nous dit 2-3 échalotes. Moi, je n'en mets 6-7-8. J'adore ça. Un champ.
Allez, échalotes.
Un champ d'échalotes coupées en fines lamelles. On les fait revenir. Donc, on les fait vraiment revenir des côtés translucides. Il ne faut pas non plus les griller. On les rajoute dans le fond de volaille. On ajoute des champignons Paris. Pareil, j'aime pas quand ils sont trop émincés. Je les coupe juste en 4 et je les rajoute pour avoir de la mâche. Et là, j'ai mis un point de moutarde des charroux. Alors, cette moutarde des charroux, c'est une moutarde, il ne faut pas trop en mettre, c'est une moutarde qui vient d'un... Oui, elle est avec des grains, elle est assez puissante par rapport au vin par lequel elle a eu une naissance. Donc, mettez vraiment, dosez-la gentiment. De la crème, bien sûr, de la bonne crème entière. Je laisse vraiment revenir tous les champignons et tout ça pendant 15 de minutes. Et à la fin, je rajoute des morceaux de poulet et c'est fait. Après, vous pouvez mettre la sauce à côté. Mon petit péché, c'est de rajouter un peu d'estragon, mais ça, pas dans la vraie recette.
Estragon et crème, c'est sympa.
Mais ça, c'est pas dans la vraie recette.
Le poulet bourbonnais, la recette est à retrouver sur le site de Cuisine AZ, notre partenaire. Dans un instant, le grand jeu de l'été RTL sera de retour pour gagner un smartphone Galaxy Note 10 ou un chèque de 1000 euros. En attendant, voici Aliel sur RTL.
Il y a des jours où j'aimerais être sourd, dans un corps sans insomnie. Des jours où je n'ai vraiment plus de goût, faites des gosses qui nous ont dit. Il y a des jours où j'aimerais prendre le large, prendre le temps et me faire plaisir. Prendre le temps de dire au revoir à ma routine. J'aimerais faire un tour, m'enfuir d'ici, qu'on me laisse tranquille. J'ai besoin de répit. Mais tout se répète encore, dans mes choix, dans mes torts. Mais tout se répète encore, dans l'amour, dans l'effort. Mais tout se répète encore, dans mes choix, dans mes torts. Mais tout se répète encore, mais tout se répète encore, encore. J'aimerais faire un tour, partir d'ici, et qu'on me laisse tranquille. J'ai besoin de Il y a des jours où j'aimerais être vous, insouciant et sans souci. Des jours où j'aimerais avoir plus de sous. Après tout, je ne suis pas votre Dieu. Il y a des jours où je suis sûr de moi, des jours où rien ne va. Il y aura un jour où je prendrai le large, un jour où je prendrai mon tour. Loin d'ici, loin de tout souci, besoin de répit. Mais tout se répète encore, dans mes choix, dans mes torts. Mais tout se répète encore, dans l'amour, dans l'effort. Mais tout se répète encore, dans mes choix, dans mes torts. Mais tout se répète encore, mais tout se répète encore, encore. J'aimerais faire un tour, partir d'ici, et qu'on me laisse tranquille. J'ai besoin de répit. Mais tout se répète encore, dans mes choix, dans mes torts. Mais tout se répète encore, dans l'amour, dans l'effort. Mais tout se répète encore, 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 encore. Tout se répète encore, 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 encore. Car tout se répète encore, vivre encore. Mes choix dans mes torts. Mais tout se répète encore, dans l'amour, dans l'effort. Mais tout se répète encore. Mes choix dans mes torts. Mais tout se répète encore.
Vous avez assisté à ses débuts de carrière sur le plateau de The Voice. Encore, c'était Aliel sur RTL.
Jean-Michel Zeka jusqu'à 12h30.
RTL vous régale. C'est le grand jeu RTL de l'été.
Et c'est toujours un bon moment car vous savez que dans un instant, un auditeur d'RTL va repartir forcément avec un magnifique cadeau au cœur de cet été. On va clôturer le mois de juillet et le grand jeu RTL de l'été avec Rémi notamment. Il est dans les Vosges. Bonjour Rémi. Est-ce que vous êtes là?
Oui,
ah, voilà,
je suis là.
Voilà, bienvenue sur RTL, bienvenue.
Bonjour,
dans RTL vous régale.
Bonjour, merci.
Ah bah, c'est, ne le soyez pas encore parce qu'on ne sait toujours pas ce que vous avez gagné, Rémi. Quoi qu'il en soit, ce sera un beau cadeau puisque vous allez pouvoir gagner soit un smartphone Galaxy Note 10 ou un chèque de 1000 euros. Et pour ça, il va vous falloir choisir entre Laurent Ruquier, le patron des grosses têtes que vous retrouvez tous les jours de 15h30 à 18h, ou Stéphanie Loire dans le week-end pour Stop ou Encore notamment. Vous avez le choix.
Stéphanie Loire.
Vous jouez avec la délicieuse Stéphanie Loire qui devrait vous porter chance et vous offrir ceci.
1000 euros, bravo, vous venez de remporter 1000 euros. Wow. De quoi passer un bel été. Alors félicitations.
On a compris que Stéphanie a lué.
Ça va lui faire plaisir.
Je vais vous dire un truc. Stéphanie est une des plus jolies voix de l'antenne d'RTL.
Et des plus belles filles de l'antenne RTL.
Je n'ai pas le plaisir de la connaître, mais c'est magnifique.
Eh bien, écoutez.
Apporter du bonheur.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle elle vous offre, avec la complicité de Laurent Ruquier, un chèque d'un montant de 1000 euros. Je ne sais pas ce que vous allez en faire. Ça vous tombe un peu dessus comme ça au hasard.
Après la Covid-19, je pense que mes enfants, ils en profiteront.
Et un voyage.
Ça nous fait drôlement plaisir de vous offrir
super,
ce chèque de 1000 euros.
RTL.
Dont on sent que vous allez bien profiter, en tout cas. On vous embrasse.
On vous embrasse.
Merci de nous être fidèles, Rémi.
Au revoir. Gros bisous à vous. Merci. Et puis, bel été à RTL. Continuez. Je resterai fidèle. C'est tellement génial tout ce que vous nous apportez. Et puis voilà.
C'est sympa de vous avoir eu en ligne. En tout cas, on vous embrasse fort. Et puis bon week-end dans les Vosges. C'est bon par chez vous en plus.
Merci,
à bientôt.
Merci,
au revoir.
Merci à vous.
Prochain
merci
rendez-vous
RTL.
Du grand jeu RTL de l'été tout à l'heure dans les grosses têtes de 15h30 à 18h. Inscrivez-vous dès maintenant en appelant le 3210, 50 centimes d'euros la minute, ou en envoyant RTL par SMS au 74 900 les grosses têtes avec Laurent Ruquier tout à l'heure. Ou avec Stéphanie Loire, allez savoir.
Jusqu'au 2 août,
c'est le grand jeu RTL de l'été. RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
puisqu'elle vient d'être nommée officiellement sosie de Laurent. Elle fait partie de notre grande tournée d'été.
Ah, la tournée vous de l'avez engagée,
évidemment.
C'est bon.
Ouais, absolument.
Ok.
La surprise du chef, s'il vous plaît, puisque dans 5 minutes il sera déjà midi et que nous passerons au défi frigo. Il s'appelle Daniel Lacassagne. Daniel, bonjour.
Oui, bonjour et Jean-Michel.
Bienvenue sur RTL. Oui, absolument,
bonjour,
absolument. Je suis ravi, très honoré et presque ému de parler au grand maître de la confrérie moulinoise du Pic en Chagne.
Oui, oh, calmez-vous. Hein, je suis grand maître, oui, mais c'est un titre essentiellement honorifique.
Mais bien sûr, bien sûr.
On est une confrérie qui ne se prend pas trop au sérieux.
Pour porter plus haut, pour porter plus beau, ce dessert traditionnel à base de pâte à pain et de poire. Alors expliquez-nous, je vous avoue franchement, hein, Daniel, moi qui suis d'origine belge, je ne connaissais pas ou très peu le Pic en Chagne.
Je pense qu'il y a un paquet de Français qui ne savent pas ce que
c'est. Qui savent pas ce que c'est non plus, donc on va en profiter pour...
C'est le but de la séquence.
Voilà.
Oui, oui.
C'est quoi le Pic en Chagne ?
Rassurez-vous, il y a beaucoup de gens, y compris chez nous dans l'Allier, qui ne connaissent pas non plus le Pic en Chagne. Hein. Donc c'est la raison pour laquelle on en fait la promotion.
Alors, dites-nous.
Alors, donc le Pic en Chagne, c'est un dessert. Alors, comme vous cherchez toujours ce que vous avez dans votre frigo pour faire quelque chose,
ouais.
Moi je vais vous dire, il suffit dans un premier temps d'avoir des poires.
Ouais. D'accord.
Alors après, c'est vrai comme vous l'avez dit, à l'origine, mais une origine qui remonte, je vais vous dire au 19e siècle, mais c'est peut-être plus loin que ça encore. On faisait, les paysans qui faisaient encore le pain chez eux, quand il leur restait un petit peu de pâte à pain, bah, ils ajoutaient des morceaux de poire dedans et puis ça faisait un dessert.
D'accord. Juste un mot sur l'étymologie du nom, ah. Pic en Chagne.
Oui, alors Pic en Chagne. Donc dans Pic en Chagne, vous avez pic. Donc c'est le verbe piquer, bien sûr. Ça c'est simple. Et puis vous avez Chagne. Alors d'accord. Dans notre département de l'Allier, j'en profite pour dire que c'est aussi l'ancienne province du Bourbonnais.
Absolument.
Le Chagne, c'était le chêne.
Donc piquer, alors, piquer comme un chêne.
Et ça veut dire piquer comme un chêne. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est que dans ce dessert, qui non seulement comporte des poires à l'intérieur, mais on pique aussi des poires debout sur le gâteau lui-même. Sur la pâte et avec la queue en l'air.
D'accord. Donc,
donc piqué comme un chêne.
Mais je vois pas le rapport avec le chêne.
Mais si.
Il y a pas de rapport.
Ah d'accord.
C'est... Oui, mais quand même la
ça me rassure.
Ce qu'ils veulent.
Oui, bien sûr.
Ils font ce qu'ils veulent.
Au moins c'est clair.
Il faut de l'imagination.
Il y a pas de rapport. Il y a pas. Non, on met pas de chêne dans le Pic en Chagne. Simplement, c'est le fait que la poire soit piquée debout, voilà. Debout comme un chêne qui se dresse. Voilà.
Bon, très bien.
C'est goûteux. C'est riche, c'est bon, c'est beurré. Moi, j'ai découvert ça il y a des années et c'est un vrai plaisir.
Daniel, juste la ménagère qui est à moi a une question à vous poser. Est-ce que il faut des poires ou on peut mettre des coins, des pommes, ce qu'on a ?
Oui, oui, oui. Alors, vous avez raison. Oui, vous avez raison. Il y a des variantes. Alors, la plupart du temps, et tel qu'on le fait encore aujourd'hui, tel qu'on l'a renouvelé aujourd'hui, on met des poires. Mais traditionnellement, on pouvait aussi mettre des coins. Ou des pommes.
Vous avez d'accord, raison. Merci.
Et ben vous
j'en
savez quoi,
Luana, pendant que je vous entends.
Oui.
Excusez-moi, je ne veux pas vous offenser.
Dites-moi.
Mais
non.
On ne dit pas l'allière.
Ah ben oui, mais vous savez, c'est très difficile pour moi de parler français.
Vous oubliez le R. Hein.
Très souvent. Très.
Daniel Lacassagne, grand maître de la confrérie moulinoise du Pic en Chagne, qui a décidé de relancer ce gâteau dans les pâtisseries de l'Allier. C'est une bonne idée. La recette a un tout petit peu changé aujourd'hui. C'est un petit peu plus accessible, je dirais. C'est moins lourd.
Voilà.
C'est moins lourd.
Voilà, c'est ça.
On vous fait confiance. Merci, oui. Daniel. Bel été à vous aussi.
Merci, merci à vous.
Et restez avec nous, le défi frigo, c'est dans un instant.
Tout de suite, retour de RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
Collecte, tri, recyclage des emballages et des papiers. Dans quelques instants, des experts vous apportent des éclairages concrets. Avec Citeo, donnons ensemble une nouvelle vie à nos produits.
Jean-Michel Zeka jusqu'à 12h30. RTL vous régale.
Le défi frigo pour un dernier match dans ce mois de juillet qui se termine avec Marie-Paul qui est au 32-10. Bonjour Marie-Paul.
Bonjour à tous.
On va faire très vite avant l'info. Marie-Paul, qu'avez-vous dans votre frigo ?
Un filet de merlu.
4 minutes pour 2 recettes à base de filet de merlu. Jean-Sébastien contre Louana, on s'en reparle dans un instant. Vous écoutez RTL.
11h-12h30. RTL vous régale. Jean-Michel Zeka.
Moi, je trouve ça pas mal du filet de merlu. Il y a moyen de faire des choses estivales, des recettes un peu fraîches.
Bah, c'est bien.
C'est une bonne idée,
saisons,
Marie-Paul.
Hein.
Ouais, merci. Je suis bien d'accord avec vous. J'adore le poisson.
Vous appelez d'où? Je vous ai pas demandé où vous étiez.
Loire-Atlantique.
D'accord.
Donc, pas très loin de la mer, donc du poisson.
Ça s'explique très bien. Hein bon, des filets de merlu.
Donc, en Bretagne.
Ah, ne commencez pas comme ça.
On m'a assez dit qu'il ne faut pas que je le fasse.
Il y avait une bonne ambiance jusque-là dans cette émission. Marie-Paul arrive avec ses filets de merlu gentiment, tout doucettement. Qu'est-ce qu'on fait, Marie-Paul? On commence avec qui?
Alors, on va commencer avec Jean-Sébastien.
Allez, Jean-Seb pour démarrer aujourd'hui.
Écoutez, puisque en Loire-Atlantique, vous êtes un peu quand même en Bretagne. Hein, bon, on va descendre. Ouais, on va descendre vers le Pays Basque. Parce que personnellement, le merlu, pour moi, ça évoque tout de suite le Pays Basque. Ça évoque le merlu Koskera, qui est une des recettes les plus incroyables que j'ai jamais goûté. C'est un véritable bonheur de faire ce merlu que vous allez prendre et que vous allez faire dorer gentiment sur de l'huile d'olive avec un peu de sel, un peu de poivre. Alors, l'idéal, c'est d'avoir un plat en terre, hein, traditionnellement. Mais vous pouvez faire ça dans une sauteuse. C'est absolument pas un problème. Vous faites dorer vos filets de merlu salés poivrés avec un petit peu de piment d'Espelette. À partir de là, bon, c'est vrai que si on était au printemps, je vous dirais, vous prenez des asperges que vous allez faire blanchir. Là, vous pouvez prendre des asperges blanches. Vous allez pouvoir prendre des asperges vertes, vous allez juste les passer 30 secondes, une minute à l'eau bouillante avec quelques petits pois. Vous stoppez la cuisson au bout de 30 minutes dans de l'eau glacée. Et puis, vous allez poser ces petits pois, ces asperges sur les filets de merlu dans votre sauteuse et vous allez remettre à chauffer ça avec des gousses d'ail entières. Vous les mettez en robe des champs. Surtout, vous ne les épluchez pas. Vous les posez comme ça parce qu'il ne faut pas qu'elles se délitent.
C'est le moment ultime.
Vous laissez vos gousses d'ail en nuisette. Vous les posez dans votre plat. Elles vont se plaire. Elles vont dorer tranquillement. Puis elles vont donner un petit goût aillé tranquille, mais pas trop présent. Ensuite, il faut aller acheter quelques palourdes que vous allez faire ouvrir.
Faut les ramasser.
Bah oui, vous pouvez les ramasser, vous pouvez aller faire la pêche à pied, il n'y a pas de problème.
Hein,
vous allez chercher vos ballons, vous les faites ouvrir avec un poêle de vin blanc, et puis vous les rajoutez dans votre sauteuse. Là, vous laissez cuire juste pour que les filets de merlu soient nacrés. Vous mouillez un peu. Alors, avec un iroulégui blanc, c'est le pied total. Vous mettez un peu de persil frais.
Iroulégui, vin basque. Hein.
Oui, vin basque. Vous mettez un peu de persil frais sur votre plat, et vous aurez rajouté le petit truc qui va customiser, qui va faire la petite touche supplémentaire. Vous aurez cuit quelques œufs durs que vous allez couper à moitié et vous posez tout ça dans la sauteuse. Vous amenez, vous servez. Je peux vous dire que avec 2-3 pommes de terre vapeur, ça va faire la blague et vous allez ça va impressionner.
Hein. Ah, elle est pas mal cette. Wow. Comment vous appelez ça, le merlu alors?
Merlu Koskera.
À la Koskera.
Oui, voilà. Bien sûr.
C'est un merlu Koskera.
C'est donc un très grand classique visiblement que je ne connaissais. Vous connaissiez la recette, Marie-Paul?
J'en avais entendu parler, mais je l'ai jamais faite.
C'est pas mal, hein?
Ouais, c'est pas mal.
Bon, face à lui, il y a Luana Belmondo.
Yeah.
Yeah. Je dors le yeah, ça fait très rock.
Yeah.
Alors écoutez, on est dans une période où les poivrons, les légumes, ce que j'appelle du soleil, sont vraiment super. On a les poivrons en ces moments, c'est gorgé d'eau et des soleils. Et moi j'adore ça, j'aime la fraîcheur. On va faire un poulet, un filet de merlu. En fait, pas vraiment à la basquaise, mais presque. Vous allez prendre vos... Alors, on va commencer par le filet de merlu. Donc, il est déjà vidé, caillé, tout nettoyé.
C'est un filet.
Vous préchauffez votre four à 180 degrés. Vous le disposez entier dans un plat légèrement huilé. Vous salez, vous poivrez. Vous allez l'enfourner pendant une vingtaine de minutes. Il faut que le poisson soit à peine cuit, que la chair se détache, mais qu'elle ne soit pas vraiment... il faut vraiment une cuisson un peu rosée. Voilà, pour une fois, c'est rosé sur un poisson. Donc, vous le sortez, vous le gardez des côtés. au chaud si possible. Dans une sauteuse, vous allez couper en fine lamelle des poivrons rouges, des poivrons verts, avec un petit peu d'oignon, ça caramélise toujours, et vous les faites revenir juste dans de l'huile d'olive. À côté, dans une casserole, et c'est là que j'adore ça, parce qu'en fait, on associe très souvent le poisson avec du citron. Donc le poisson demande toujours un petit point d'acidité. Et moi, ce que j'aime faire, et ça c'est une recette, et vous pouvez les faire avec autre poisson que le vôtre, vous allez peler des gousses d'ail et les tailler en fines lamelles. Vous allez les faire revenir dans de l'huile d'olive, dans un poêle, dans de l'huile d'olive. Vous les faites légèrement dorer et là, vous allez me rajouter du vinaigre, soit des cidres, soit des xérès. Vous allez laisser réduire, il va évaporer en fait, l'acidité s'évapore, on va garder le goût, le parfum du vinaigre et vous maintenez au chaud. Vous avez à ce moment-là le merlu qui est sorti du four. Vous avez les poivrons en lanière qu'ils ont caramélisé. Vous avez tout simplement déposé dans un plat, au fond du plat, vos poivrons, comme ça. Le merlu entier, encore un peu rosé par-dessus. Et vous allez l'arroser avec justement ce que je viens de vous dire, vos gousses d'ail avec du vinaigre. Et ça va continuer à le cuire pendant au moins 2 minutes. C'est là que vous allez avoir un poisson avec une cuisson parfaite. Après, vous pouvez rajouter des piments si vous voulez. Vous pouvez rajouter, moi je rajoute juste un peu de persil et je serve ça avec des pommes de terre, du riz, une salade fraîche, tout ce que vous voulez. C'est hyper simple. C'est des saisons et ces coups de petite astuce d'huile avec le vinaigre des cidres tiède qui continue à cuire le merlu. Franchement, en dehors, je gagne ou pas, ça marche sur tous les poissons quand on a défilé.
Elle a dit, en dehors du fait que je gagne ou pas,
j'ai gagné déjà.
Je rappelle que tout à l'heure, en début d'émission, vous avez lancé...
Ah oui, c'est vrai. Non, alors j'ai tout perdu.
Non.
C'est vrai. Donc d'un coup, pardon, j'avais oublié. Non mais je suis italienne, vous savez, nous on fait des promesses qu'on ne tient jamais.
Je n'ai fait que rappeler la proposition qui était la vôtre.
Non, c'est vrai. Vous avez une grande pression.
Celui qui gagne aujourd'hui
gagne la semaine.
Gagne la semaine. C'était la proposition de loi, là.
Oui, oui, voilà. C'est vrai.
D'un côté, j'avais un merlu basque, de l'autre, un merlu basque.
C'est-à-dire que...
C'est un merlu arrangé.
Alors, les deux recettes sont superbes.
Je sens le mets arriver.
Et je... Oui. Bon, pas de suspense.
Ça va être la guerre dans ce studio.
On va passer un bon week-end. Bon,
alors, ça va être basque.
Ça va être...
Ça va être basque.
C'est-à-dire le choix de Luana?
Jean-Sébastien.
Non, Jean-Sébastien.
Ah oui, non, mais parce que vous avez dit que c'était un merlu un peu à la basquaise.
Oui, un peu parce qu'on a mis les poivrons. Mais
victoire de Jean-Sébastien, petit nom.
Jean-Sébastien.
Qui, contre toute attente, vient de remporter la semaine.
Marie-Paul, il peut vous remercier. Oui. Mais par contre, à moi, il va m'inviter tout le week-end, je ne sais pas où. Mais vous m'invitez tout le week-end, Jean-Sébastien.
Oui.
C'est dingue. Sinon, venez à la maison. Venez à la maison, Luana.
Il faut saluer le fair play de Luana Belmondo, qui a proposé, alors qu'elle avait gagné la semaine, de faire la belle.
Et bah quand c'est normal, c'est une femme.
Ouais, bah c'est surtout que quand on parle de se faire la belle, quand on s'appelle Marie-Paul, c'était couru d'avance.
Et voilà.
Allez, c'est gagné pour Jean-Sébastien. Ça, c'est réglé. Et Marie-Paul, vous avez bien fait de venir nous voir parce qu'on va vous offrir une montre RTL, un guide du routard de votre choix offert par les éditions Hachette. Et tenez-vous bien, on va y rajouter un coffret cadeau Brittany Ferries, irrésistible voyage d'une valeur de 1000 euros.
Wow.
Nous vous offrons un cadeau pour découvrir Londres, Dublin, pourquoi pas une croisière pour l'Espagne. Vous allez composer votre voyage pour la destination de votre choix. Londres, l'Irlande, l'Écosse, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal. C'est valable de manière illimitée. Vous partez quand vous voulez, en fait. C'est ça qui est génial.
Wow, c'est génial. Merci beaucoup et merci pour les recettes. Et merci de nous régaler tout l'été.
Et ben voilà, plus de renseignements sur britanniferries.fr. Bon voyage, bonnes vacances.
Merci beaucoup.
Au cœur de cet été 2020 un petit peu particulier. Et vous avouerez quand même, Marie-Paul, que partir en croisière grâce à un filet de merlu, ça a de la gueule.
Quand même. Quand même, hein.
Je vous embrasse.
Je vous embrasse.
À très bientôt.
Allez, bisous à tout le monde.
Et bonne journée, bon week-end.
Bonne journée, bon week-end. Au revoir.
Je rappelle que pour lancer un défi frigo à Louana et Jean-Seb, dès la semaine prochaine, c'est très simple. 3210 par téléphone, 64 900 par SMS avec le mot régal. On se retrouve dans quelques minutes sur RTL.
Juste avant, on peut juste dire il y a 2-2.
C'est ?
Il y a 2-2.
Ah non, vous avez gagné. Ah, par rapport aux semaines. Oui, oui, c'est 2 semaines.
Moi, j'avais gagné un week-end
partout.
En tout cas.
2-2.
C'est 2-2.
N'oubliez pas, Jean-Sébastien.
Ça vous laisse...
J'adore les surprises.
Ça vous laisse imaginer le climat qui va régner sur le défi frigo dès lundi. A tout de suite.
RTL vous régale jusqu'à 12h30. Jean-Michel Zeka. Bonne journée et bel été sur RTL.
RTL, toujours avec vous. RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Allez, au cœur des volcans d'Auvergne, aujourd'hui avec mes camarades Louana, Jean-Sébastien et avec Frédéric Goulet. Bonjour Frédéric. Bienvenue sur RTL, vous êtes le directeur commercial et marketing de Vulcania. On ne présente plus évidemment Vulcania. Frédéric, vous êtes là ?
Oui, oui, tout à fait. On peut quand même présenter un petit peu.
Oui,
bonjour.
Non, mais je voulais simplement dire, vous constaterez que je n'ai pas parlé de parc d'attraction, puisque je sais que vous insistez sur le thème parc d'exploration ou parc à thème. Voilà.
Exactement, c'est très important pour nous.
C'est un peu plus didactique qu'un parc d'attraction.
Voilà, on a un parc qui est unique, on n'est pas sur les attractions, enfin on a des attractions, mais on est vraiment sur le thème des volcans et des phénomènes naturels. Et c'est ce qui rend unique le parc Vulcania en Europe d'ailleurs.
Vous illustrez à merveille le fait qu'il y a moyen de s'instruire en s'amusant.
Exactement. On a des attractions autour des émotions et de la découverte, donc c'est apprendre en s'amusant sur le thème des volcans. Alors, il y a des volcans gris, il y a des volcans rouges, il y a des mares. Enfin, un volcan, c'est très générique, mais il y a plein de formes de volcans différentes. C'est ce qu'on apprend à Vulcania. Et puis, il y a tous les phénomènes naturels, parce que le volcanisme est l'un des phénomènes naturels qu'on étudie en particularité à Vulcania. Mais il y a les autres, il y a les ouragans, les séismes, et puis aussi la Terre dans l'espace. Parce que, figurez-vous que des volcans, il y en a bien sûr sur Terre, il y en a sous mer aussi, mais il y en a aussi sur Mars, il y en a sur Vénus, il y en a dans l'espace. Voilà.
Donc,
on apprend tout ça à Vulcania.
Frédéric, raconter l'histoire des volcans, c'est aussi raconter finalement l'aventure de notre planète Terre.
C'est ça, c'est l'aventure de la planète Terre, parce que effectivement, par rapport aux volcans, on a parlé des dinosaures, on a parlé de toute interaction qu'il y a pu avoir avec les hommes, avec les animaux, et puis justement, toutes les modifications qu'il y a pu avoir au niveau de toute l'histoire, alors la grande histoire, hein, on parle de 1 million d'années, ce qui a modelé justement toute notre planète Terre et qui fait ce qu'on connaisse actuellement et qu'on peut découvrir actuellement au gré des voyages, et notamment en Auvergne.
Alors Vulcania, c'est un pôle d'attraction et c'est un pôle économique aussi pour toute cette région dans laquelle vous vous trouvez, hein.
Alors complètement, nous c'est vrai qu'on est important dans le sens où on est un parc où on a 85% des personnes qui vont venir de l'extérieur de l'Auvergne, donc on est un parc dit de destination, donc c'est quelque chose qui est important, on est un petit peu l'une des portes d'entrée, je dis bien l'une des portes d'entrée, parce qu'il y a énormément de choses à faire en Auvergne, justement pour que les personnes viennent visiter cette magnifique région, et du coup on a effectivement beaucoup de monde qui viennent de partout en France, que ce soit des Parisiens, des Lyonnais, des Toulousains et ainsi de suite, et de l'étranger aussi, hein. On a beaucoup de Belges, de Suisses, et on a la possibilité de faire des visites dans toutes les langues, dans 5 langues différentes.
Et puis vous êtes le seul parc, en fait, où vous allez raconter à l'intérieur du parc ce qu'on va voir à l'extérieur dans un site naturel totalement unique au monde, pratiquement.
Ah, alors, ouais, ça, c'est l'une des chances qu'on peut avoir. On est situé, on a 57 hectares, figurez-vous, en plein milieu de la chaîne des Puits, qui a été inscrite en 2018, donc c'est très, très récent, à l'UNESCO. On a cette chance-là, c'est que quand vous arrivez à Vulcania, vous êtes en plein milieu d'un environnement qui est protégé. Donc, vous avez vu, vous connaissez forcément, je vais citer une marque, mais le volcan qui est sur les bouteilles de Volvic, qui n'est pas très loin. Vous le voyez très très bien depuis chez nous. Vous voyez aussi le Puy de Dôme, le Pariou et ainsi de suite. Et c'est vraiment magnifique. Et c'est vrai qu'on a cette chance-là d'être dans un cadre qui a inscrit UNESCO au même titre d'ailleurs que
Frédéric,
la baie d'Alonde.
Je voulais vous dire merci tout simplement parce que moi j'ai 3 garçons et un de mes garçons a été complètement fou. En fait, les volcans, c'est un peu, vous savez, les enfants ont toujours des passions. Alors ça peut être les volcans, les trains très souvent, les petits soldats. Et un, il avait quelle est cette passion des volcans. Et je suis venue chez vous et finalement, on peut réaliser, entre guillemets, le rêve d'un petit jeune homme en lui expliquant en réalité et tout autour en la visitant. Donc merci parce que, comme vous dites, ce n'est pas un parc d'attractions. Vraiment, c'est quelque chose qui rend un jeune garçon, un jeune homme, une jeune fille, quelque chose de un rêve qui se réalise.
Merci Frédéric.
Ça nous touche beaucoup.
En tout
merci
cas,
beaucoup.
Directeur et commercial de Vulcania. Vous vouliez ajouter quelque chose, je vous en prie.
Mais merci avec, beaucoup. Hein.
Ce sera avec plaisir.
Très bon été. À bientôt.
Bonne journée au cœur de ces magnifiques volcans d'Auvergne. Allez, dans un instant, on va partir ailleurs avec Jean-Sébastien. On va
en Italie.
Ce sera merci.
Oh, quel bonheur. Juste
c'est
après.
Vous avez gagné le défi d'explique.
Non, juste après Indochine, nos célébrations sur RTL.
Je suis comme une histoire et qui n'en finira pas.
Célébration, titre inédit d'Indochine que vous retrouverez dans le best-of d'Indochine qui sortira à la rentrée prochaine. Indochine sur RTL.
Restez bien avec nous. RTL vous régale. Revient tout de suite. RTL vous régale jusqu'à 12h30.
Allez, on va vous emmener ailleurs avec Jean-Sébastien. Si l'Italie est le jardin de l'Europe, Naples est le jardin de l'Italie. Voir Naples et puis...
Quel joli cadeau, merci.
Et puis mourir.
Bah, pas forcément.
Mais bon, ou y revenir.
Pas forcément, parce que je suis allé plusieurs fois à Naples, notamment pour le Guide du Routard, mais pas seulement. J'y suis aussi allé et retourné pour plaisir. Et comme disait Stendhal, qui était un grand amoureux de l'Italie, c'est sans comparaison à mes yeux la plus belle ville de l'univers. Alors c'est un petit peu exagéré, mais c'est vrai que c'est une ville qui n'a jamais visité Naples, il ne connaît pas totalement l'Italie, parce que c'est une ville qui a une identité assez folle. C'est une ville qui est à la fois turbulente et éruptive, à l'image du Vésuve. C'est pour ça que, après s'être baladé en Auvergne, il fallait forcément que je raccroche à ce volcan majestueux qui domine une baie immense en croissant, qui est une des plus belles baies du monde.
Il n'y a aucune autre ville en Europe qui possède une telle histoire également, qui a réussi à traverser les vicissitudes des siècles tout en maintenant une personnalité et en sauvant vraiment sa personnalité. Et cette histoire, elle vient de très très loin, puisque c'est des sirènes au départ qui s'appelaient Parthénope, Ligée et Leucosia, parties de chez elles pour s'installer au large de Sorrento, et elles devaient envoûter les marins par leur chant fatal. Quand ils s'approchaient trop des côtes, les navires se fracassaient et les sirènes, qui n'étaient pas des gentilles filles, les dévoraient. Mais Ulysse les a trompées et elles se laissèrent mourir, formant le golfe de Naples. C'est la légende qui raconte ça. Mais même si cette ville a beaucoup changé dans l'histoire, elle est encore aujourd'hui bouillonnante, humaine, active. Naples ne supporte pas l'hypocrisie. Elle fait se côtoyer à chaque instant le sacré et le profane. Les aristocrates, les bourgeois, les gens du peuple et tous les autres et les visiteurs, le verbe haut. Il y a des gesticulations théâtrales des Napolitains qui parlent encore plus avec les mains que Louana. Leur goût pour la superstition et l'exagération baroque, là par contre, sont à l'image de Louana. Et en attendant, de la Parmigiana au Baba, en passant par le Limoncello, le charme éternel de Naples, pour moi, est un goût, une saveur, un plat qui symbolise à la fois l'éternité et l'éphémère, qui sont les caractères napolitains.
11h-12h30.
RTL vous régale.
11h-12h30.
RTL vous régale. Jean-Michel Zeka.
C'était un véritable bonheur de semaine à vos côtés dans RTL vous régale. À Brive-la-Gaillarde en début de semaine, à Chartres la semaine prochaine.
Ouais.
Rendez-vous dès lundi 11h pour un nouveau RTL vous régale. Très bon week-end à tous. Lundi, le Dauphiné, autant vous dire que ce sera gratiné. Vous écoutez RTL, il est midi.